Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Katia.
Bonsoir.
Eh bien, je vous écoute.
Merci de m'avoir appelé.
Avec plaisir.
Alors, j'ai besoin de conseils parce
oui.
que je suis très bouleversée d'avoir appris depuis quelques jours qu'une jeune femme de mon entourage, que j'aime beaucoup, avait été violée dans son enfance.
Oui.
Et violée donc par un copain de son frère.
Oui.
Mais par contre, elle m'a dit qu'elle ne savait plus du tout qui c'était. Voilà, donc c'est une
jeune femme. Donc c'est elle qui s'est confiée à vous, c'est ça, hein, c'est comme
alors,
ça que vous
fait,
l'avez appris.
Alors en fait, c'est venu un petit peu par hasard. Je ne pense pas qu'elle avait vraiment l'intention de me le dire. Nous étions au téléphone et elle m'a dit en passant comme ça qu'elle allait voir, qu'elle avait rendez-vous avec une sage-femme. Et j'ai demandé pourquoi elle allait voir une sage-femme encore alors que son bébé a un an.
Oui.
Et là, bon, elle a fondu en larmes et elle m'a dit qu'elle avait des problèmes. Des problèmes sexuels maintenant avec son mari, depuis
oui.
son accouchement.
Oui.
C'était très douloureux et que physiologiquement, il n'y avait rien qui justifiait. Et donc, cette sage-femme, je pense qu'elle lui a dit que ça pouvait être dû à un traumatisme qui pouvait ressortir soit pendant la grossesse, soit après l'accouchement.
Oui.
Et donc elle lui a dit, je pense à cette femme, qu'elle avait été violée. Bref, c'est là qu'elle me l'a avoué. En pleurant. Je ne pense pas qu'elle avait l'intention de me le dire, mais c'est
oui.
venu comme ça.
Ah, c'est en voilà. réponse à votre question qu'on vous
oui.
avait demandé pourquoi aller
oui.
voir cette sage-femme.
Oui, oui, parce que je me disais qu'au bout d'un an, on n'avait plus besoin de revoir une sage-femme, qu'on avait fait toutes les rééducations nécessaires, etc. Enfin, voilà.
Donc elle se confie à la sage-femme. Enfin, c'est la sage-femme qui l'accompagne pour le problème
oui.
sexuel.
Voilà. Mmh. Disons que cette sage-femme lui a proposé de faire des séances d'hypnose. Je ne sais pas exactement ce que ça peut donner. Bon, je pense, a priori, je n'ai rien contre l'hypnose. Je pense que ça peut être bien. Mais je me demande si elle n'aurait pas besoin en plus de voir quelqu'un d'autre à côté pour parler, de faire une psychanalyse, une psychothérapie.
Oui.
Je pense que ça serait peut-être bien. Je sais qu'elle a, elle n'hésite pas à parler. Elle a déjà consulté par le passé quand elle a eu des gros problèmes.
Oui.
Voilà. Bon, j'étais vraiment bouleversée d'apprendre ça. Alors, elle m'a dit aussi qu'elle ne savait plus du tout qui c'était, mais que si elle le savait, elle n'hésiterait pas maintenant à porter plainte. Parce qu'elle se sentait assez forte pour porter plainte et pour subir, disons, une procédure. Et,
oui,
voilà.
Donc c'est son souhait maintenant.
Elle aimerait le faire, mais elle ne sait plus. Elle ne sait pas qui c'était.
Est-ce que quelqu'un... Elle sait, ça lui est arrivé vers quel âge?
Alors, elle m'a dit qu'elle était à l'école primaire.
Oui.
Donc elle était quand même très jeune.
Oui, oui, là c'est...
Voilà.
Oui, c'est terrible,
voilà.
c'est un viol
oui.
pédophile.
Complètement,
oui.
Complètement, oui. Alors son frère a 5 ans de plus qu'elle.
Oui.
Donc ses copains étaient évidemment plus âgés qu'elle également. Voilà, les copains de son frère. Mais donc elle ne sait pas exactement qui c'était. Et elle ne sait pas trop pourquoi elle n'en a pas parlé à l'époque. Elle m'a dit que peut-être qu'elle n'avait pas bien réalisé, qu'elle ne savait pas trop finalement ce qui s'était passé, ou est-ce que c'était une façon d'occulter la réalité. Toujours est-il qu'elle n'en a pas... Bon, son mari est au courant.
Oui.
Elle lui en a parlé dès le début.
Oui.
Et elle me dit qu'il est très, très, très compréhensif, très gentil avec elle, sur ce plan-là.
Oui.
Il la respecte absolument quand il voit que ça ne va pas. Voilà.
Il est délicat avec elle.
Très. Oui, oui, absolument.
Et vous
absolument.
Pensez que votre amie, quand les faits sont arrivés, est-ce qu'elle sait si d'autres personnes étaient au courant? Est-ce que le frère, lui, doit être au courant? Il doit savoir qui c'est.
Écoutez, je ne sais pas. Alors, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas en parler à son frère, parce qu'elle ne voulait pas le culpabiliser alors qu'il n'y était pour rien.
Bah, en fait, oui, enfin, ne pas le culpabiliser, ça s'entend, mais comme il semble dans l'histoire être peut-être le seul à pouvoir savoir de qui il s'agissait. Donc c'est pas tant le culpabiliser que de lui demander de l'aider à reconstituer son histoire à elle.
Oui, mais ça n'y est pas... je pense que nous allons en reparler. Moi, je pense qu'il faudrait que son frère le sache. Mais c'est vrai que tel que je le connais, lui aussi, il va beaucoup, beaucoup s'en vouloir. Mais je lui ai dit que ce n'était pas elle à porter ça toute seule.
Oui.
Tout le temps, voilà. Elle n'en a pas parlé à ses parents, elle n'en a pas parlé à sa sœur aînée, qui aurait pu l'aider parce que sa sœur a quand même peut-être 10 ans de plus qu'elle. Donc, elle est quand même beaucoup plus âgée. Voilà, j'étais la première personne à qui elle en parlait. Elle m'a supplié de n'en parler à personne.
À votre avis, Katia, qu'est-ce qu'elle attend de vous quand elle se confie à vous? Vous avez une idée de ce qu'elle, souhaite?
Je pense qu'elle n'avait pas vraiment l'intention de me le dire et c'est peut-être sorti comme ça sans qu'elle l'ait voulu.
Oui, elle était submergée par l'émotion en parlant de la sage-femme. Oui.
Je pense que c'est ça, parce qu'elle est restée un moment sans pouvoir parler. Je sentais qu'elle pleurait, qu'elle était... Voilà. Donc finalement, elle me l'a dit. Alors, cette jeune femme a perdu sa mère, ça fait une dizaine d'années. Toute son adolescence, sa mère était malade.
Oui.
Donc elle a eu un grand manque de ce côté-là aussi, je pense. Donc moi, je ne veux pas dire que ça a remplacé sa mère, ce n'est pas le cas. Mais disons que...
Oui, vous pouvez être une figure maternelle, une figure rassurante.
Je suis un petit peu dans ce rôle-là, disons.
Oui,
voilà.
Oui.
Voilà. Et c'est pour ça que je me demande ce que je pourrais faire pour elle. Je ne veux pas être trop directive, je ne veux pas lui imposer des démarches. Et que ça lui pose problème si elle n'a pas envie, elle, de rentrer dans ses démarches, ou si ça lui pose problème de les refuser alors que je lui ai dit que ça se serait bien. Voilà, je ne veux pas la brusquer.
Oui, vous savez, je crois que dans ces situations-là, le mieux est de demander à votre amie ce qu'elle attend de vous, en lui disant, écoute, tu m'as fait confiance en confiant quelque chose de très intime, j'en suis honorée, touchée.
Oui.
Moi, mon désir, c'est de t'accompagner dans la façon de traiter les choses qui sera bonne pour toi. Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux qu'on parle pour essayer, par exemple, de reconstituer les faits ensemble? Est-ce que toi, ton souhait, c'est d'aller plutôt vers la justice pour qu'il y ait une reconnaissance de la chose? Est-ce que c'est par là que tu souhaites te diriger pour aller mieux, ou est-ce que au contraire ce n'est pas du côté de l'action en justice? Parce que là, l'action en justice, ça exige qu'elle entre dans une démarche d'enquête en quelque sorte, où il s'agira de reconstituer ce qui s'est passé. Et de l'autre côté, donc l'autre alternative, d'ailleurs ça peut être les deux, c'est d'aller effectivement en thérapie pour essayer de comprendre. Alors là, c'est autre chose. En thérapie, l'objectif serait plutôt qu'elle puisse appréhender en quoi ce qu'elle a vécu pendant son enfance impacte éventuellement sa vie sexuelle maintenant.
Oui, je pense que c'est le cas, effectivement.
Oui. Mais je crois que le mieux, c'est de lui poser la question. C'est voilà, tu t'es confiée à moi, j'en suis honorée, touchée. Qu'est-ce que tu attends de moi? Moi, je suis prête à t'accompagner là où tu voudras aller. Si tu veux qu'on essaie de reconstituer les choses ensemble, tu me racontes, on essaye de reconstruire logiquement les choses. Vous savez, parfois, une amie est un très bon interlocuteur. Il n'y a pas que les thérapeutes qui peuvent faire ça.
Oui, tout à fait, tout à fait. Mais bon, je pense que moi, je ne suis pas très psychologue, disons. Voilà.
Pourtant, vous semblez délicate dans votre abord des choses. Enfin, quand vous en parlez, vous semblez...
Oui, mais je ne suis pas sûre de toujours bien comprendre, disons, les choses, les sentiments des autres. C'est dans ce sens-là que je ne voudrais pas ajouter à sa blessure en ayant des paroles maladroites.
Vous savez, Katia, je pense qu'une personne, elle sait toujours à qui elle s'adresse quand elle parle. Je pense que si votre amie s'est adressée à vous, c'est que forcément, elle trouve en vous exactement ce dont elle a besoin pour se confier. Parfois, vous savez, les personnes nous parlent, pourquoi elles nous choisissent, ça nous dépasse. Et même si vous pensez que vous, vous n'êtes pas psychologue, elle, elle vous a choisi pour vous parler.
Je sais qu'elle me parle volontiers. Dans le passé, elle m'a parlé volontiers de ses problèmes, de sa vie, de choses et d'autres. Elle n'a jamais hésité à me parler, disons, mais de choses quand même plus légères, bien évidemment plus légères que ça. Ce que je me demande, c'est est-ce qu'il serait bon pour elle de se souvenir de qui lui a fait ça ? Est-ce que ça serait très traumatique ? Est-ce que par des séances d'hypnose, elle peut y arriver ?
Vous savez, l'esprit humain est très bien fait. On ne peut pas forcer la remémoration, on le voit en thérapie. S'il est bon pour elle qu'elle ne se souvienne pas, de toute façon, son inconscient va maintenir le refoulement et elle ne se souviendra pas. Même sous hypnose, c'est très difficile de forcer les barrières du refoulement. Donc, s'il est bon pour elle qu'elle ne se souvienne pas, les souvenirs ne remonteront pas, l'inconscient maintiendra le refoulement. S'il est bon pour elle qu'elle se souvienne, des bribes de réminiscences vont lui arriver, dans des rêves, d'accord, par exemple, ou des flashs. Donc ça, je crois qu'il faut vraiment faire confiance à la façon dont notre esprit fonctionne. L'esprit ne se laisse pas forcer.
D'accord, oui. Je redoutais un petit peu qu'elle se souvienne de choses vraiment traumatiques et qui seraient très difficiles à
revivre. Si elle se souvient, c'est qu'elle est prête à le supporter. On le voit très bien dans la thérapie. C'est d'ailleurs en ça qu'on traite les choses avec délicatesse. C'est aussi votre intention. On voit que quand quelqu'un ne se souvient pas en thérapie, on ne le passe pas à la question, on sait que l'inconscient, du point de vue de l'inconscient,
bloque encore,
c'est ça, pour protéger le sujet. Donc, et si les réminiscences arrivent, même si la personne est bouleversée et c'est normal, c'est qu'elle peut assumer les réminiscences.
D'accord.
Et dans ces cas-là, l'inconscient adresse des messages codés sous forme de rêves ou des flashs ou des vagues impressions à l'occasion d'événements dans la vie. Donc ça, il suffit simplement de laisser faire. Allez-y.
Je voulais dire qu'elle peut être l'action de l'hypnose qu'on lui a proposée, donc dans quel but
Alors ça, l'hypnose, au fond, il y a deux approches en particulière. L'hypnose consiste à créer un état modifié de conscience pour que l'hypnotiseur ait accès au préconscient, donc c'est pas l'inconscient, c'est le préconscient, et puisse, en posant des questions sous hypnose, essayer d'obtenir des réponses. Alors, si c'est dans le préconscient, c'est qu'une partie de la censure a déjà été levée. Parce que sinon, si c'est dans l'inconscient et que le refoulement persiste, il n'a pas les réponses.
L'hypnose ne va pas y pénétrer.
Exactement. Donc, il n'y a pas de danger particulier, parce qu'on ne force pas les défenses. Simplement, là, ça dépend de chacun. Il s'agit de voir si votre ami a envie de faire l'expérience de l'hypnose. C'est assez particulier parce que finalement on est abandonné à quelqu'un qui
elle est prête à le faire.
D'accord.
Oui, elle m'a dit qu'elle allait le faire. Alors, elle allait voir une sage-femme justement qui fait de l'hypnose avec des femmes qui ont des problèmes alors sexuel ou autre, je ne sais pas exactement, mais disons que c'est une sage-femme qui est spécialisée là-dedans, qui en fait.
L'autre approche, c'est plutôt le point de vue des psychanalystes, mais bon, encore une fois, pour ma part, je ne suis jamais radicale sur les choses. Le psychanalyste pense que plutôt que de recourir à l'hypnose et d'obtenir une remémoration dans un état modifié de conscience, un psychanalyste pense qu'il est mieux pour la personne de fonctionner en pleine conscience, de se remémorer de ce qu'elle peut se remémorer, et en étant en pleine conscience, parce que ça lui permet, elle, de penser les choses, de se faire son idée, son intime conviction, de mettre en mouvement sa faculté de juger. Donc, bon, je pense plutôt ça en tant que psychanalyste, parce que je pense que tout ce qui s'opère en pleine conscience est plus efficace, parce que personne est aux commandes, donc elle peut se remémorer.
Elle est consciente déjà.
C'est ça. Et en même temps qu'elle se remémore, elle peut faire bouger ses représentations des choses, penser autrement ce qui lui est arrivé, se déplacer subjectivement par rapport à ça, bouger son image d'elle, toutes des choses qu'on fait en conscience et pas sous hypnose. Donc c'est, ça rajoute une dimension de travail. Mais bon, je crois que...
Moi, je lui ai conseillé, de toute façon, déjà, je lui ai dit que je pensais qu'il serait bien qu'elle aille consulter, qu'elle fasse des séances parallèlement à l'hypnose ou indépendamment de séances d'hypnose qu'elle veut faire. Je pense...
Une personne expérimente. Laurence nous dit par SMS, il y a l'EMDR. Effectivement, l'EMDR, c'est quelque chose d'intéressant en cas d'expérience traumatique. Je pense qu'une personne sent très bien ce qui lui convient. Donc, elle peut expérimenter l'hypnose, l'EMDR, voire une psychanalyse, et elle sentira très bien le type d'approche qui l'aide et dans laquelle...
Ce qui lui est le plus profitable, le plus bénéfique.
Tout à fait.
Je crois que peut-être l'hypnose, ça serait... Peut-être un déblocage un peu plus rapide de ses douleurs dans son approche de sa vie sexuelle actuelle. En fait, c'est ça qu'elle cherche là en allant faire des séances d'hypnose. Mais je crois qu'il serait bien qu'elle entreprenne une démarche sur un plus long cours.
Ça, je pense que c'est en dialoguant avec elle. C'est-à-dire le fait de dialoguer avec elle, vous allez lui donner les idées. Et elle va pouvoir se positionner par rapport à ça. Vous savez, c'est souvent comme ça qu'on guide les personnes. On lui dit, voilà, il y a telle piste, il y a l'hypnose, le MDR. Il y a la possibilité de la psychanalyse. Et elle se positionne.
Lui laisser le temps de choisir elle-même, exactement, de réfléchir.
C'est Stéphane qui nous écrit souvent. Merci Stéphane. Oui. Nous envoie un petit mot, il dit, il ne faut pas forcer les choses. Ayez une oreille attentive, ce serait déjà merveilleux pour votre amie. Ben oui.
Ah oui, non, je veux surtout pas la forcer à quoi que ce soit. C'est pour ça que j'avais besoin d'être un petit peu conseillée, un peu guidée. Moi, je suis beaucoup plus âgée qu'elle. J'ai près de 70 ans, voyez. Donc c'est. Ah oui. C'est pas une jeune femme que je connais bien, que j'aime beaucoup de mon entourage, mais c'est. C'est dans le sens où je disais, je remplace un petit peu sa mère.
Oui, vous êtes certainement une figure très apaisante pour elle.
Oui. Je suis beaucoup plus. Puis j'ai toujours été un peu dans sa vie, voilà.
En fait, elle aura certainement un choix à faire, comme on l'évoquait tout à l'heure. Oui. C'est est-ce que elle va souhaiter enquêter pour aller vers l'action judiciaire. Ça fera partie des choix qu'elle aura à faire.
Oui.
Et là, si elle fait ce choix-là, ça me paraît inévitable qu'elle parle à son frère. Et d'ailleurs,
de toute façon, c'est sûr. Oui.
Et il y a quelqu'un qui s'appelle l'homme aux camélias, c'est très beau pseudo, qui dit que, au contraire, ça peut être justement en ne lui disant rien que le frère peut culpabiliser s'il apprend ultérieurement. Peut-être que le fait de participer, en effet, à la remémoration, à la reconstitution des choses, ça peut apaiser sa culpabilité au sens où il se rend utile.
Oui, je comprends. Je dois avouer que l'autre jour, j'ai parlé avec son frère, parce qu'on se parle, je parle un petit peu avec toute la famille, et disons mine de rien, je l'ai un peu interrogé, je lui ai dit tes copains, un tel, et tout ça... Tu les vois toujours, comment ça se passait à l'époque. Enfin bref, j'ai essayé simplement de me remémorer quelques noms, parce que je connaissais certains de ses copains de nom. Je me suis fait une petite liste qui ne mène à rien, mais disons que j'ai un peu posé des questions, voir la façon dont il en parlait.
Oui. Vous ouvrez la route à votre ami, en fait.
Un petit peu. Je me suis dit que si elle m'en parlait, je pourrais lui dire, tu te souviens d'un tel et d'un tel ou de voilà. Mais bon, c'est prématuré ça pour l'instant.
C'est vraiment lui poser la question, c'est lui demander si elle souhaite que vous l'aidiez à reconstituer. Mais vraiment, je vous écoute, Katia, je suis sûre que vous ferez parfaitement les choses parce que vous avez vraiment un souci de délicatesse, de ne pas brusquer votre amie, d'ouvrir des voies, d'explorer des pistes, de lui proposer des choses.
Je pense qu'elle est tellement blessée déjà que je ne voudrais pas vraiment la brusquer en quoi que ce soit.
Je suis certaine que vous le ferez.
Parce qu'elle ne suit pas ce que je lui dis, voyez.
Mais je vous sens tellement respectueuse que je pense que ça ne peut pas arriver. Et si des personnes blessées ont très souvent une intuition des personnes à qui elles peuvent parler. Donc je crois vraiment qu'elle vous a choisi.
Oui, c'est clair qu'elle elle m'a dit qu'elle n'en avait parlé à personne, même à sa mère à l'époque. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'elle avait occulté tout de suite, ou si c'est parce que sa mère était déjà très malade et donc elle n'était pas, vraiment disponible pour entendre.
L'important, c'est ce qu'elle souhaite maintenant. Je pense qu'après, si elle fait un travail sur elle, elle pourra savoir pourquoi elle a occulté. Oui. Mais là, manifestement, elle est dans un certain désir de savoir. Parce que situation avec son mari crée une forme d'urgence.
Parce que ça a un impact sur sa vie,
maintenant. C'est ça.
Directement, oui. Et maintenant, je comprends mieux... Je comprends mieux certaines de ses attitudes, de ses comportements, parfois... Je me souviens qu'elle n'avait pas de... À l'adolescence, elle n'avait pas de petits copains. Alors que c'est une très, très jolie fille, très sociable, très gaie, très... Voilà.
Oui.
Mais vraiment, elle a jamais eu de copains jusqu'à la fac, je dirais.
Oui. Donc il a fallu qu'elle rencontre son mari
elle
avec...
Elle était très agressive, même si on l'invitait simplement au cinéma ou quelque chose comme ça. Je me souviens de comportements comme ça, voyez.
Oui, un peu radicaux.
Oui.
Et son mari a su l'apprivoiser, manifestement.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait, oui. Oui. Elle m'a dit qu'elle lui en avait parlé dès le début.
Oui. Oui, donc ça crée une sorte de lien entre eux. Enfin, il y a une sorte
de... Tout à fait.
Je
crois qu'il a été très, très... très, très à l'écoute. Très à l'écoute. Très compréhensif, très doux. Oui.
Sachant que puisque son questionnement part de la problématique sexuelle avec son mari, je crois qu'il s'agit de se souvenir aussi que l'idée que c'est la réplique du séisme traumatique, pour dire ça comme ça, c'est qu'une hypothèse. Ça peut être ça, mais ça peut être autre chose aussi. Au fond, ça ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant pour elle de se guérir et d'explorer ça, mais je crois que c'est important de rester dans une ouverture d'esprit en se disant que peut-être que c'est lié à ce traumatisme, mais c'est peut-être autre chose aussi.
Mais peut-être pas,
Peut-être pas, parce que parfois il y a des choses assez mécaniques, il y a des choses qui, par exemple, des désordres musculaires ou des contractions réflexes, des choses comme ça.
Plus
physiques, physiologiques.
Alors, apparemment, sur le plan physiologique, il n'y a rien de spécial. Parce qu'elle a consulté plusieurs fois, justement, une sage-femme, en se disant que c'était des séquelles de son accouchement, d'une épisiotomie, ce genre de choses, vous voyez. Mais apparemment, il n'y a pas de raison physique pour qu'elle ait mal. Alors,
Je pense que c'est quand même intéressant de pas abandonner complètement la piste médicale, parce que elle est allée du côté de la sage-femme, c'est bien. Ça vaut la peine aussi d'explorer du côté d'un gynécologue ou même d'un neurologue, parce que tout ce qui est du côté de la douleur, ce peut être des phénomènes neurologiques, pas forcément graves. Hein, mais je pense que ça vaut la peine de pas abandonner l'exploration médicale. La sage-femme, c'est un certain savoir qui est dans le poste accouchement. Gynécologue, c'est un savoir.
Alors, justement, je m'étonnais qu'elle aille voir une sage-femme et pas un gynécologue.
C'est
pour ça que je lui ai posé la question et c'est de là qu'est partie notre discussion. C'est de là qu'elle m'a avoué...
Elle est certainement en confiance avec la sage-femme, mais je pense que s'il l'encourageait à l'exploration médicale, je crois qu'il y a deux spécialités à explorer. C'est une gynécologue ou quelqu'un avec qui elle se sent bien, pour voir ce qu'il peut y avoir, et aussi éventuellement en neuro, parce que c'est des endroits...
Un neurologue,
parce que ce sont des endroits où il y a beaucoup de terminaisons nerveuses.
Oui,
et tout ce qui est lié à la douleur, vous savez, il y a toutes sortes de phénomènes. Il y a parfois, ça arrive dans les articulations, dans les mains, enfin toutes les zones qui sont fortement innervées, il peut y avoir des phénomènes neurologiques. Donc je crois qu'il ne faut jamais... Enfin, c'est intéressant la piste psychique, mais je crois que ce n'est pas la seule.
Il ne faut peut-être pas s'y arrêter d'emblée. Oui,
voilà.
Je comprends.
Pour lui donner vraiment la possibilité d'explorer toutes les hypothèses.
Je vais lui en parler.
Oui.
Je vais lui en parler, oui. Au moins de lui dire de consulter aussi quelqu'un d'autre, que c'est très bien que cette sage-femme la conseille, mais de ne pas, oui, de pas exclure une autre possibilité.
Bah oui, parce qu'en
fait, je pense qu'elle a orienté directement là-dessus.
Bah oui, mais on n'est pas sûr, parce que jusqu'à présent, elle a pu avoir une vie sexuelle avec son mari, donc il va pas de soi que tout d'un coup, le traumatisme crée un problème. Alors oui, ça peut-être que la maternité peut reconvoquer, mais ça paraît pas si évident que ça, le lien, vous voyez.
D'accord,
c'est possible, mais ça va pas de soi.
Oui, pour la sage-femme, c'était la piste la plus intéressante, étant donné qu'il n'y avait rien de spécial sur le plan physiologique.
Rien de son point de vue à elle, c'est-à-dire avec ce qu'elle peut savoir.
Tout à fait, oui, effectivement.
Donc,
de ce qu'elle a pu observer elle-même, oui.
Parce qu'elle, elle sait, oui, elle est capable de repérer un état post-accouchement. Le gynécologue, lui, il a déjà une approche plus large. Et neurologue, c'est encore...
Je vais le lui conseiller.
Oui, vraiment. Parce que vous voyez, Katia, ce serait dommage que votre amie s'engage dans cette recherche sur ce qui lui est arrivé. Bon, ça peut toujours lui être bénéfique, mais supposons que ça ne produise pas les résultats qu'elle espère, ça peut être très dur et qui est passé à côté d'une question médicale.
Bien sûr, oui.
Et il y a des choses quand même, parce que parfois, quand il y a des douleurs locales, il existe des gels, des anesthésiants locaux, des décontractants musculaires. Enfin, il y a beaucoup de choses en gynécologie aujourd'hui.
C'est vrai, oui.
Et peut-être qu'en attendant qu'elle fasse sa recherche, il y a certainement des moyens comme cela, toutes ces aides, ces crèmes, ces gels, et qui peuvent beaucoup l'aider en attendant.
Pour ça, il faut qu'elle aille consulter un gynécologue.
Exactement.
Quand même,
ça, c'est pas
lui prescrive.
Exactement. Oui. Et un gynécologue, deux gynécologues, parce que parfois tous ont leur, il y a des choses qu'ils connaissent bien et d'autres pas. Mais dans ces, il existe beaucoup de choses aujourd'hui. Vous savez, il existe des gels à l'acide hyaluronique. Il existe beaucoup de choses.
Tout à fait, oui. Et des décontractants.
Exactement.
Des
anesthésiants pour la douleur. Et donc, là aussi, ça peut aider votre amie.
Je vais le lui conseiller, oui.
Vous voilà, Katia, avec une palette de moyens.
Voilà, moi, de les utiliser au mieux.
Oh, mais vous saurez faire, j'en suis sûre.
Ah, oui. Écoutez, je vous remercie beaucoup de vos conseils. J'étais vraiment... bouleversée et désemparée.
Je comprends. Bah oui, vous l'aimez, votre amie, donc vous avez été impactée émotionnellement.
Oui. Puis c'était une petite que j'ai connue, vraiment que j'ai vu naître, et donc c'était déjà tellement douloureux qu'elle perde sa mère et qu'elle se retrouve jeune comme ça, sans ce soutien. Et
elle a de la chance de vous avoir.
Et de savoir qu'elle avait connu ça, j'étais vraiment bouleversée.
Oui.
Bouleversée qu'elle se soit tue aussi toutes ces années, qu'elle ait traversé ça toute seule.
Oui.
C'était terrible.
En tout cas, vous êtes très empathique. Ça doit l'aider aussi.
Mais je vais faire de mon mieux pour être présente, oui.
N'hésitez pas si vous souhaitez nous donner des nouvelles, Katia, et en reparler.
Oui. Quand ça aura un petit peu évolué, je vous rappellerai.
N'hésitez pas.
Merci beaucoup. Merci de vos conseils.
Avec plaisir, Katia.
Merci beaucoup. Au revoir.
Au revoir.
Sabine Caligari sur RTL. Parlons-nous.